Comment prendre soin de notre enfant intérieur? Mais qu'est-ce que l'enfant intérieur? Docteur Emmanuel Contamin, bonjour.
Bonjour.
Ensemble, nous évoquons les différentes méthodes, les différents outils pour prendre soin de nous. Dans votre livre, vous développez particulièrement le reparentage de l'enfant intérieur. Ce travail sur les blessures des liens d'attachement précoces. Je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous préconisez des pratiques d'autothérapie. Alors, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Est-ce un nouveau concept en vogue en psychologie?
Non, en fait, c'est quelque chose de très ancien. C'est vrai que tous les souvenirs traumatiques restent inscrits dans notre mémoire d'une façon particulière et sont en quelque sorte figés dans le temps. Et toutes les expériences douloureuses qu'on a vécues dans l'enfance, en particulier dans les liens d'attachement à nos parents ou aux personnes qui s'occupaient de nous, ont vraiment construit ce qu'on appelle les schémas d'attachement et qui sont un peu les bases de notre personnalité. Et quand il y a eu des événements blessants, douloureux, traumatiques au cours de ces premiers liens, ça inscrit comme une sorte de filtre perceptif de notre vision de nous-mêmes, de notre vision de ce qu'on peut attendre des autres, de notre confiance de base un peu. Et on peut considérer ces filtres perceptifs ou ces schémas comme le vécu d'un enfant intérieur qui reste encore très sensible à l'intérieur de nous.
Ce qui explique par exemple quelquefois qu'on a l'impression qu'on a des comportements disproportionnés face à certains événements.
Voilà, en particulier dans des situations où on engage une relation affective, une relation d'intimité, ou bien où on est vulnérable, on est demandeur de soins, donc on va activer notre système de l'attachement et toutes les appréhensions, toutes les insécurités du système de l'attachement vont s'activer en même temps.
Ça veut dire quoi, attachement? Donc, les liens d'attachement, c'est...
Alors, les liens d'attachement, c'est un petit peu la représentation qui se crée à la fois de nous-mêmes et de ce qu'on peut attendre des autres à travers les relations qu'on a eues avec nos parents. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, je suis en détresse, je crie, ma mère vient me consoler, je m'apaise, je me sens mieux. Donc ça, c'est un schéma très simple, mais si ce schéma est répété, je vais avoir comme sentiment implicite sur moi-même, je peux être en sécurité dans le monde et je peux compter sur les autres. Si à l'inverse, je crie, mes parents me crient dessus en me disant « mais arrête de nous embêter » ou pire, me donne une claque, je vais être dans une vision de moi-même comme quelqu'un de mauvais, d'inadéquat, qui n'a pas le droit de sentir des émotions et de les exprimer. Et je vais avoir une appréhension sur ce que je peux attendre des autres.
Et si on prend toujours le même exemple et vous criez, mais c'est pas que vos parents ne veulent pas vous donner à manger, mais c'est simplement qu'il y a d'autres enfants et qui ne sont pas libres au moment où vous criez et qui vous font un petit peu attendre, est-ce qu'il peut y avoir une perception personnelle d'un abandon alors qu'il n'y a pas d'abandon?
C'est toute la différence entre les blessures et les traumas des liens d'attachement. De toute façon, nos liens d'attachement sont pleins de blessures. Moi, j'aime bien prendre l'image d'enveloppes psychiques qui sont autour de nous et qui sont forcément imparfaites, qui ont des zones grattantes ou des zones avec des petits trous, des petites déchirures. Mais c'est autre chose d'avoir ces petites failles et puis d'avoir vraiment des traumatismes qui nous ont atteints profondément. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi les mères n'étaient pas parfaites. C'est Winnicott, un pédopsychiatre, qui a dit... Il y a deux choses terribles, c'est d'avoir une mère maltraitante ou une mère parfaite. Il faut une mère suffisamment bonne. Et en fait, le fait d'apprendre par nos expériences précoces que les relations sont toujours un petit peu imparfaites, un petit peu à ajuster, ça nous prépare vraiment à la complexité des relations humaines qu'on aura à affronter au cours de notre vie.
Vous dites qu'il y a quatre styles d'attachement. Alors, la première, c'est quoi ?
C'est l'attachement sécure, quand tout se passe bien.
En sécurité, donc.
En sécurité, on a une bonne base de sécurité, et puis on a une confiance qui nous permet d'explorer assez librement le monde extérieur.
Donc on a été aimé, écouté, entendu, même si les parents n'étaient pas parfaits.
Voilà, tout ce qu'on appelle les désaccordages de la relation ont donné lieu à le plus souvent une réparation du lien, qui permet d'apaiser et de relancer la confiance, oui.
Et ça représente combien de personnes à peu près?
Oh, ça représente à peu près 60-65% des gens, c'est quand même la majorité.
Et puis, il y a les évitants.
Alors, les attachements évitants, c'est des personnes qui ont plutôt appris qu'il ne fallait pas trop exprimer leurs émotions, en particulier les émotions négatives, et donc qui ont appris à s'auto-réguler, à plutôt ne compter que sur eux, à développer des ressources personnelles, mais à peu compter sur les autres.
C'est souvent des gens qui semblent détachés.
Exactement.
À distance des autres.
Voilà, une distance émotionnelle ou même le fait d'avoir peu d'engagement dans les relations. Oui.
Au contraire, il y a des gens qui sont plus fusionnels.
Alors, il y a ce qu'on appelle l'attachement ambivalent, où les gens alternent un petit peu entre la fusion et l'angoisse d'abandon. Donc, c'est des personnes qui ont perçu l'attachement un peu comme une douche écossaise, avec parfois des moments très positifs, et puis parfois des moments au contraire d'abandon, de lâchage du lien, et donc ont des réactions un petit peu d'angoisse, d'agrippement, parfois de colère intense, et ont du mal à créer des relations vraiment adaptatives à l'âge adulte, parce qu'elles sont en permanence prises un petit peu par cette angoisse qui parasite leurs relations.
Et ce sont des personnes qui sont souvent dépendantes des autres ?
Oui, ça peut facilement créer des liens de dépendance, oui.
Et puis, il y a aussi des personnes que vous appelez désorganisées ?
Alors, l'attachement désorganisé, c'est les situations plus graves. Ça représente à peu près 10% des personnes. C'est les situations qui exposent le plus à un risque de maladie mentale, où il y a vraiment de la maltraitance, ou bien où les parents sont eux-mêmes très angoissés et donc angoissants pour leur enfant. Puis il y a de la négligence.
Il peut y avoir des parents dépressifs aussi, par exemple.
Oui, voilà, une mère déprimée, par exemple, n'aura pas la disponibilité intérieure pour vraiment être attentive au vécu de son enfant et répondre suffisamment à ses besoins.
Donc, schématiquement, 60-65% de gens qui sont dits « sécures ».
10-15% pour les attachements évitants et ambivalents. Et à peu près 10% pour l'attachement désorganisé.
Donc, je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter les émissions de La Vie est un art avec Marion Blic, où on parlait justement de ces liens d'attachement. Mais vous avez une bonne nouvelle, c'est que même pour ceux qui n'ont pas un attachement sécure, on peut changer à l'âge adulte.
Voilà, c'est un des gros objectifs de la psychothérapie en général, hein, c'est de permettre de revisiter les liens d'attachement et de les réorganiser. C'est aussi ce qu'on peut vivre dans des relations de couple, par exemple. On réactive souvent les blessures d'attachement, mais aussi on peut avoir une véritable guérison de ces blessures d'attachement dans une relation de couple qui fonctionne bien. Et il y a des exercices que je propose dans le livre aussi pour travailler sur ces liens d'attachement, même si ça sera souvent en complément d'une aide thérapeutique. On s'appuie énormément sur ce qu'on appelle des figures ressources, qui sont des personnes par qui on s'est senti vraiment compris, accueilli tel qu'on était, aimé. Alors ça peut être des personnes réelles, un parrain, une grand-mère, un enseignant, un prof de musique, un prêtre. Voilà, une personne qui, pour nous, a été vraiment une personne repère dans notre vie. Et c'est vraiment très important.
Vivante ou décédée ?
Vivante ou décédée, dans la mesure où on a gardé ce lien intériorisé positif avec cette personne. Ça peut être aussi des figures symboliques. Et là aussi, on redécouvre beaucoup l'importance de figures spirituelles. Pour beaucoup de personnes, par exemple chrétiennes ou musulmanes, la Vierge Marie est une figure très importante. Donc quand on va prendre un petit peu le temps d'identifier quelles sont les figures ressources sur lesquelles on pourra s'appuyer, et on va faire un travail de renforcement du lien d'attachement sécure à l'intérieur de nous avec cette personne.
Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, une figure imaginaire, on va dire Zorro ?
Tout à fait. Ça peut être une figure de film ou de roman. Ça peut être aussi une figure humanitaire. Ça peut être l'abbé Pierre, ou ça peut être le Dalai Lama, ou ça peut être Mère Teresa, ou ça peut être une figure politique, Nelson Mandela. Voilà, chaque personne en fait, et c'est ça ce qui est beau, c'est que, en particulier quand on a manqué de figures d'attachement solides dans notre enfance, on cherche un petit peu tous, et on trouve des figures ressources sur lesquelles on s'appuiera.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces figures ressources ?
Alors, il y a plusieurs exercices, donc de renforcer, comme je vous l'ai dit, le lien avec une figure ressource. Et puis après, on va pouvoir utiliser la présence de ces figures ressources pour venir prendre soin des blessures de notre enfant intérieur.
C'est comme si cette figure ressource allait parler à notre enfant intérieur, c'est ça ?
Exactement. on va avoir une visualisation qui va permettre de se représenter notre enfant intérieur, ce qu'il ressent, les besoins qu'il a. Et on va utiliser dans un premier temps cette figure ressource pour lui apporter les choses dont il a besoin. Et après, pour nous-mêmes devenir un bon parent pour notre enfant intérieur, lui permettre de s'apaiser et de se réorienter vers notre âge actuel.
Ça veut dire qu'au départ, il y a nécessité d'un thérapeute.
Quand on a des traumatismes, des liens d'attachement, oui, franchement, je pense que c'est difficile de le retravailler seul. Là, ça sera des exercices qui seront plus des exercices complémentaires d'accélération de thérapie. Mais tout le travail de renforcer les ressources que sont les figures ressources, c'est vraiment un travail très précieux pour tout le monde, ça.
Par exemple, on peut mettre un poster ou une grande photo de cette figure ressource dans sa chambre ou dans son bureau.
Oui, c'est ce que j'appelle le collage de la famille symbolique. Donc, on peut prendre un poster format A3, par exemple, et mettre des photos ou des dessins, des représentations, des figures ressources. C'est très intéressant parce que ça crée comme ça, dans notre environnement, une sorte de piqûre de rappel qui va nous reconnecter à toute l'expérience positive que ces figures nous apportent.
Alors, on peut penser aussi tout simplement aux statues qu'on retrouve dans les maisons, ou aux croix, ou aux figures spirituelles qu'on peut retrouver.
Absolument, et je pense que c'est vraiment pas pour rien que dans l'art occidental, la Vierge à l'enfant est une des principales représentations.
Emmanuel Contamin, ensemble nous parlons de l'enfant intérieur et dans votre livre, vous proposez une lettre que vous pouvez écrire à votre enfant intérieur. Vous pouvez nous en lire quelques extraits ?
Là, je vais vous lire un passage qui fait partie d'une méditation de reparentage de l'enfant intérieur. Et c'est vrai qu'on peut l'écrire sous forme de lettre aussi, une lettre à notre enfant intérieur. Donc cette méditation commence par... le fait de se connecter à une figure ressource, comme je le disais, d'accueillir tout l'amour de cette figure ressource, et puis après de reprendre nous-mêmes en tant qu'adultes toute cette compassion, toute cette bienveillance pour notre enfant intérieur. Mon cher enfant, je suis là pour toi, prêt à t'écouter. Je t'en prie, fais-moi part de toute ta souffrance, de tous tes besoins. Je suis là pour toi, je t'écoute vraiment. Aujourd'hui, nous avons grandi. Alors n'aie plus peur, nous sommes en sécurité. Nous avons les moyens de nous protéger. Ne laisse plus le passé nous emprisonner. Viens, prends ma main, marchons ensemble. Savourons chacun de nos pas ce que nous offre le présent. Je sais que tu es là, en moi. Nous avons traversé des souffrances. Je veux te remercier de tout cœur pour le courage que tu as eu de traverser tout cela, pour nous permettre d'être là, aujourd'hui, et de construire une belle vie. Pardon pour les moments où je ne t'ai pas vu ni écouté, où je ne t'ai pas protégé. Je m'engage à le faire de mon mieux maintenant. Maintenant, je veux te dire que la vie est merveilleuse, qu'elle est pleine de bonnes choses et de bonnes personnes qui apportent de la joie et de l'apaisement. Et on peut continuer cette méditation au rythme de la respiration. J'inspire, j'écoute attentivement mon enfant intérieur. J'expire, j'envoie amour et compassion à mon enfant intérieur.
Un grand merci, Dr. Emmanuel Contamin, de nous donner des petites choses toutes simples et si profondes à vivre en autothérapie. Vous écrivez aussi qu'il faut prendre soin de notre écosystème. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, ce qui me frappe, c'est à quel point il y a une profonde cohérence entre ce qui est bon pour nous, pour notre vie psychique et aussi pour notre corps. Je parle à toutes ces ressources si précieuses que sont l'exercice physique et la marche en particulier, le sommeil, l'alimentation, de tout ce qui est bon pour nos relations. Et c'est pour ça que ce travail sur l'enfant intérieur va nous aider à avoir plus de confiance et de capacité à construire des relations constructives avec les autres. Et puis, notre vie sociale et notre écosystème est totalement aussi lié à ce qui est bon pour nous. On ne peut pas s'épanouir dans une société ou un écosystème désorganisé. Et la façon dont on arrive à être centré sur nous-mêmes nous donne aussi beaucoup plus de liberté par rapport aux addictions consuméristes, nous donne plus de recul pour être capable de nous engager dans ce qui a vraiment du sens, nous donne plus d'altruisme aussi pour pouvoir tenir compte du bien commun et pas seulement de notre intérêt individuel. Et donc, je suis vraiment très marqué de cette cohérence entre ce qui nous permet de prendre soin de nous à tous ces niveaux.
Alors, vous préconisez de relire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Laudato Si, qui est un message du pape aussi sur la relation avec la nature.
Pas seulement avec la nature. J'ai été très touché par cette lettre du pape qu'il a écrite à tous les habitants de cette planète et où il dit que tout est lié.
L'économie aussi, beaucoup.
Voilà,
il parle beaucoup d'économie.
L'économie et la politique et les enjeux de société, la question de la place des plus pauvres. Et comme il dit aussi dans le film qui a été fait le pape François, le plus pauvre des pauvres, c'est notre planète avec l'effondrement de certains écosystèmes, de la biodiversité, les modifications du climat, toutes les pollutions qui pèsent plus sur les personnes les plus pauvres.
C'est pour ça que vous avez intitulé votre livre « Prenons soin de nous ».
Tout à fait,
le
oui.
« nous » est important.
Le « nous » est très important. On a une image parfois du développement personnel comme quelque chose de très égocentrique qui va aller dans le sens de l'inflation du moi. Et là, je cherche vraiment à proposer quelque chose de différent et qui va plutôt nous soutenir dans toutes nos relations avec nos proches, avec notre engagement social et avec notre écosystème.
Mais peut-être qu'il faut commencer par soi-même ?
Absolument. Il faut commencer par soi-même. C'est Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux dans le monde ». Et c'est vrai que là aussi, on voit bien que si on veut avoir un engagement non violent pour des changements sociaux, ben ça demande un vrai travail intérieur.
Donc, vous préconisez quoi à vos patients ?
Je ne dis pas à mes patients de s'engager dans tel ou tel mouvement politique, mais quand j'aide mes patients, je vois que très spontanément, beaucoup ont le désir d'engagement associatif, par exemple. Beaucoup retrouvent une capacité d'ouverture dans leur relation aux autres, dans leur relation au monde. Et ça, pour moi, c'est très porteur d'espoir.
C'est un peu le signe qu'il y a eu une guérison ?
C'est vrai, c'est le signe et la concrétisation d'une guérison. La guérison, c'est vraiment être capable de créer autour de soi un écosystème relationnel qui continue à nous mettre dans une spirale positive.
Mais d'abord, il faut accueillir ces troubles éventuellement psychiques qu'on sent en soi.
Il faut vraiment avoir une vision la plus juste possible de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ce qui peut être souffrant pour nous ou pour notre entourage, et essayer d'entrer dans un chemin de progression, oui.
Dans la première émission, ensemble, nous parlions donc de la méditation en pleine conscience et une des choses qui était bien déterminée, c'est le fait de ne pas juger.
Oui, c'est très important parce que ce qui permet le changement, c'est l'acceptation. Quand on est dans une attitude de rigidité, de jugement, de refus de certaines parties de nous, on cristallise des difficultés et on n'ouvre pas de possibilités de fluidité et de changement. Donc, la première démarche, c'est de profondément accepter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quelquefois, c'est aussi ce que permet le passage par une relation thérapeutique où on se sent vraiment accueilli tel qu'on est et compris sans jugement. Et à partir de là, on a beaucoup plus de liberté, de capacité à mettre en œuvre des changements.
Et vous pensez que la psychologie positive est une fenêtre qui est importante pour justement vivre ?
Oui, je pense que c'est très important. Pour vous donner juste un petit exemple, moi j'ai rencontré plusieurs fois des personnes dont le logement avait brûlé. Une des pertes qu'elles regrettaient le plus, c'était les albums photos. C'est-à-dire toute cette façon qu'on a de donner du poids, de donner de la consistance à ce qui a été précieux dans notre vie. Je pense que c'est déjà une approche spontanée de la psychologie positive.
Et vous, Emmanuel Cantamin, qu'est-ce qui est précieux dans votre vie ?
Il y a d'abord mes relations avec mes proches. Ce qui est très précieux dans ma vie, c'est aussi le contact avec la nature. Et la marche est une ressource extrêmement importante qui me fait toujours beaucoup de bien. Il y a même une praticienne qui a proposé un protocole de marche thérapeutique en EMDR, dont je parle dans le livre. J'ai la chance d'avoir un travail qui a beaucoup de sens pour moi, dans lequel je suis engagée, y compris dans le travail de supervision avec mes collègues que j'aime énormément.
Au niveau européen aussi, international ?
Non, j'ai été formé des collègues au Cambodge avec l'association pour un sourire d'enfant. Peut-être je vais aller voir mes collègues algériens qui m'ont sollicité, mais je reste quand même surtout en France. J'essaye de pas trop prendre l'avion pour être cohérent aussi.
Et la prière ?
Alors oui, la prière est une ressource pour moi aussi. J'aime bien prendre une matinée toutes les deux semaines d'un temps de désert, de vraiment d'un espace de recul, de mise en présence et de prière, de connexion à mes ressources spirituelles. Oui.
Un grand merci, Dr Emmanuel Contamin, pour vos précieux conseils. Donc, je rappelle votre livre « Prendre soin de nous » au prix de 7 euros que vous pouvez trouver dans les grandes librairies en ligne. Au revoir.
Au revoir.